Le journal est présenté par Camille Magnard.
Bonjour à tous. Ils sont bien destinés à incarner l'opposition à gauche. Les Insoumis sont à Marseille depuis vendredi pour leurs amphis d'été, au programme revue des troupes militantes et rodage des slogans avant les mobilisations qui s'annoncent pour cet automne. Précaires parmi les précaires, les livreurs à vélo de Deliveroo manifestent cet après-midi. Leur combat contre la plateforme en ligne repose la question du statut des travailleurs de l'économie collaborative, sujet suivi de très près par le ministère du Travail. Dans ce journal, nous irons également à Houston, Texas, 24 heures après le passage de l'ouragan Harvey, des dégâts limités pour le moment, mais le pire est peut-être à venir avec des pluies torrentielles qui font craindre des inondations meurtrières. Enfin, au Brésil, la gauche se lance dans la course à la présidence dans un an, avec le retour de l'ex-chef de l'État Lula, condamné pour corruption mais porté par un mouvement politique bâti sur les ruines du vieux Parti des travailleurs. Un week-end de rentrée politique en France avec les universités d'été des partis en ordre dispersé. Pour la droite, les sarkozystes ou ceux qu'il en reste sont réunis au Touquet jusqu'à ce soir. Les communistes sont à Angers. Les cadres du Parti Socialiste sont restés à Paris enfermés en séminaire à huis clos. Et la France Insoumise, elle, tient ses amphis d'été à Marseille. 3 jours de conférences sur l'avenir du mouvement qui veut incarner la voix de la gauche dans l'opposition à Emmanuel Macron. Hier, les Insoumis défilaient dans les rues de la cité phocéenne, une sorte de galop d'essai avant les mobilisations de la rentrée. Sophie Delpont.
En tête de cortège, François Ruffin donne le ton.
Hey, les copains, moi je vous entends pas. Quand je dis ils ont l'argent, on répond on a les gens, ok? Ils ont l'argent.
On a les gens.
3000 personnes défilent en musique, affichant des visages souriants derrière Jean-Luc Mélenchon et les députés insoumis qui se sont fait connaître dans l'hémicycle, comme Daniel Obono.
La France insoumise est mobilisée pour la rentrée. On ne va rien lâcher, on se prépare à une mobilisation de tous les secteurs de la société et à investir la rue comme on a investi l'Assemblée.
Plusieurs œufs sont lancés d'une fenêtre alors que le cortège traverse un quartier chic. Le leader de la France insoumise s'éclipse, notamment pour peaufiner son discours, selon son entourage.
Banquier à l'Élysée, peuple à l'Assemblée, ok? Banquier à l'Élysée! Banquier à l'Élysée!
Pierre-Yves Cadalin est militant à Brest. Il sait que les manifestations de septembre seront décisives.
Il est très important qu'on soit nombreux dans la rue le 12 septembre et les syndicats, et le 23, à l'initiative de la France insoumise, qu'on arrive à appuyer sur notre mouvement citoyen, à rassembler très largement dans les quartiers populaires, partout dans le pays comme on l'a déjà fait, et qu'on soit très nombreux pour montrer que le pays ne peut pas appartenir aux banquiers et à la finance que défend Emmanuel Macron.
Jean-Luc Mélenchon en a conscience, il doit démontrer la capacité de mobiliser de la France insoumise hors période électorale pour cimenter son mouvement et espérer lancer une forte dynamique de contestation.
Insoumis partagent l'avenir.
Reportage de Sophie Delpont à Marseille, de l'eau apportée au moulin de la France insoumise et de l'opposition plus largement, avec la cote de popularité d'Emmanuel Macron qui affiche une chute sévère au mois d'août, moins 14 points selon le dernier baromètre IFOP pour le journal du dimanche. 40% seulement des Françaises interrogées ont une opinion favorable du chef de l'État en poste depuis 3 mois seulement. À la même époque, en 2012, François Hollande affichait 54% d'avis favorables. Eux se présentent volontiers comme les nouveaux prolétaires de l'économie collaborative. Les livreurs à vélo de la plateforme Deliveroo devraient manifester cet après-midi à Paris, mais aussi à Lyon, Nantes et Bordeaux. Ils réclament une majoration du prix de la course, payée 5 euros, quelle que soit la distance et le temps d'attente. Eux voudraient être payés à l'heure. Voilà en tout cas qui remet en avant une question beaucoup plus large, celle du statut de ces travailleurs indépendants en première ligne face à l'ubérisation de l'emploi. Le sujet vient justement de faire l'objet d'une étude détaillé de la DARES pour le ministère du Travail, Catherine Pétillon.
Conducteur pour Uber, chauffeur privé, livreur à vélo pour Deliveroo ou Stuart, de plus en plus nombreux, ces travailleurs des plateformes de l'économie collaborative sont mal protégés par le droit du travail. Ce qu'ils ont en commun, c'est de n'être ni salariés ni indépendants. Certes, ils sont libres de choisir leurs horaires ou de travailler pour plusieurs plateformes concurrentes, mais ils restent aussi tout à fait dépendants de la plateforme de mise en relation, avec toute la vulnérabilité que cela entraîne, comme dans le cas de Deliveroo qui cet été a décider unilatéralement de la baisse de rémunération de ces livreurs. Pour mieux protéger ces travailleurs, faut-il, comme le réclament certains, créer un nouveau statut entre salariés et indépendants ? Non, répond la DARES dans une nouvelle étude sur l'économie des plateformes. Ce service du ministère du Travail estime qu'un tel statut ne pourrait être instauré sans remettre en cause celui de salariés et tout le droit du travail associé. La DARES s'appuie sur l'exemple de l'Italie où en 2003, un contrat de collaboration de projet a été créé en plus des CDI et CDD. Censé limiter la précarité de ces travailleurs, il a en fait abouti à l'effet inverse. La DARES plaide donc pour un meilleur encadrement dans le cadre du droit existant et estime qu'orienter le débat autour d'un troisième statut occulterait peut-être un problème de taille, à savoir mieux clarifier le lien de dépendance des travailleurs aux plateformes.
Catherine Pétillon. Le Texas n'en a pas fini avec l'ouragan Harvey. 24 heures après l'impact sur les côtes du golfe du Mexique, l'État américain est toujours sous des trombes d'eau et les autorités ont fait appel à l'armée en renfort. Elles craignent des inondations catastrophiques dans les prochaines heures. On attend des précipitations records dans la région de Houston où se trouve l'envoyé spécial de France Culture, Philippe Randé.
Devant le seul magasin ouvert, abrité sous une tôle, ils sont une poignée à observer la rivière en train de déborder. Au milieu des éclairs, quelques automobilistes qui n'arrivent plus à rouler sous les trombes d'eau s'arrêtent sur un petit parking qui ressemble à une mare. John tient nerveusement la main de sa fille. On vient de me dire qu'il va y avoir une énorme tornade là juste au-dessus de nous. Il pleut sans cesse depuis des heures, ça s'arrête pas. J'essaie de rentrer chez moi mais je peux pas, c'est fou. Il y a de l'eau partout dans les maisons, chez moi c'est inondé. Regardez là, on dirait un lac. Et pendant que la fille de John sursaute à chaque coup de tonnerre, Vénus, elle est enfermée dans sa voiture en train d'écouter la radio locale qui demande à tous les habitants de se mettre immédiatement à l'abri. La tornade arrive et je ne sais pas où me cacher. Du coup, je reste dans ma voiture. Je fais signe aux gens qui circulent de s'arrêter sur le parking. On a vu les images des dégâts ailleurs. Ça fait peur. On a une rivière qui est montée de plusieurs mètres. Les gens ont fui. Ils ont même vidé la prison il y a une heure. Et selon le centre des ouragans, les pluies qui vont se poursuivre encore plusieurs jours pourraient atteindre plus d'un mètre. Des alertes inondations sont en cours un peu partout dans la région de Houston.
Philippe Randé au Texas et selon un dernier bilan officiel, le passage de l'ouragan Harvey a déjà fait au moins 2 morts. 250 000 foyers sont privés d'électricité ce matin. Les forces armées irakiennes sont confiantes. Elles se disent sur le point de chasser les derniers combattants de Daesh de la ville de Tal Afar, l'une des dernières en Irak où ils résistent encore. L'offensive dure depuis une semaine. Les combats se concentrent désormais sur 2 derniers quartiers au nord de la cité. Et puis dans le même temps, le Liban annonce une pause dans ses opérations militaires contre les combattants du califat à la frontière avec la Syrie. Il s'agit là de négocier la libération de 9 soldats libanais prisonniers depuis 3 ans. La gauche brésilienne se cherche un nouveau souffle à un an de la présidentielle. Le parti des travailleurs est miné par les affaires de corruption et ne se remet pas de la destitution l'an passé de Dilma Rousseff. Alors l'ancien président Lula revient en première ligne. C'est vrai, il est encore sous le coup d'accusations de corruption, mais il se lance dans la campagne électorale avec un mouvement politique baptisé Vamos. Hier, il a réuni 1 millier de partisans à Sao Paulo, meeting suivi par Marino Dacher.
Le cri de guerre des anti-Michel Temer qui scande « Fora Temer, dégage Temer » commence peu à peu à construire une nouvelle voie. Une gauche brésilienne est-elle possible au-delà du Parti des travailleurs ? C'est le pari qu'a fait le collectif Povo Sem Medo, Peuple sans peur, en lançant hier à São Paulo un appel au débat. Marcelo Freixo, député du Parti Socialisme et Liberté, le PSOL, arrivé au 2e tour des municipales face à un évêque évangéliste tout-puissant, est venu de Rio de Janeiro pour l'occasion.
L'idée est de consolider un projet de gauche, un moment critique pour la démocratie brésilienne. On a vécu un coup d'État, un processus de destitution. On se retrouve avec un gouvernement désastreux, sans légitimité aucune, avec 95% de rejet. Et l'élection qui vient est d'une grande importance pour le Brésil.
Silvia Ferraro est militante féministe et comme beaucoup, elle est déçue par le bilan du PT au pouvoir de 2003 à 2016.
Pas grand-chose a été fait pendant ces 13 années. Je constate que la violence contre les femmes est l'un des problèmes les plus graves, tout comme l'avortement qui n'est toujours pas légalisé au Brésil.
L'ancien président Lula reste le favori des sondages s'il était candidat pour 2018. Mais en cas de condamnation en appel, une décision qui devrait devrait tomber dans les prochains jours, il serait inéligible. En attendant, il poursuit sa tournée dans le Nord-Est, terre de ses électeurs les plus fidèles.
Marie Nodacher à Sao Paulo pour France Culture. La météo, enfin, elle est orageuse ce matin de l'Île-de-France à la Lorraine. Des orages qui vont frapper également cet après-midi sur les Pyrénées, le Massif central. Ailleurs, eh bien, c'est plutôt ensoleillé sur les côtes de la Manche, comme celle de l'Atlantique ou de la Méditerranée. Les températures maximales au nord de la France seront comprises cet après-midi entre 25 et 31 degrés, de 30 à 35 sur une ligne sud, donc où l'alerte orange canicule est maintenue jusqu'à demain matin sur la Loire, le Puy-de-Dôme et le Rhône.